Avec le maire de Saint-Colomban, Xavier-Antoine Lalande. Monsieur le maire, depuis les derniers jours, les municipalités qui sont en périphérie de la communauté métropolitaine de Montréal, disons-le, se font égratigner là, par la CMM. C'est en raison de la publication d'un nouveau rapport sur l'étalement urbain. Puis finalement, on vous inclut dans le même paquet, puis on vous blâme, là, et enfin, on soutient ces municipalités-là. Vous faites du développement à tout prix, y compris évidemment là, en sacrifiant des terres agricoles. Puis je pense que là, vous voulez remettre les pendules à l'heure.
Bien, en effet, tout porte à croire que la CMM avait un agenda en ce début d'année 2020, puisqu'avec une parution d'une note de l'Observatoire du Grand Montréal le 6 janvier, et avec les lettres ouvertes qui sont sorties aujourd'hui, on voit qu'il y avait un exercice planifié depuis assurément quelques semaines. Donc, vous avez fait une belle introduction. Ce qu'il faut dire, c'est que la CMM a pris finalement. A mis toutes les villes dans le même paquet. Et ils sont allés faire des représentations, beaucoup de sorties médiatiques pour promouvoir finalement les résultats de leur étude.
Monsieur le maire, de votre côté, évidemment, en ce qui vous concerne, la ville de Saint-Colomban, c'est loin de. Vous êtes loin de poser des gestes dont on reproche la multitude de municipalités là, qui sont situées aux abords là, de la CMM.
Absolument. Au cours des derniers jours, ce qu'on a entendu, c'était que les gens ne connaissaient pas du tout la réalité de Saint-Colomban. J'ai entendu beaucoup de gens penser que Saint-Colomban se développait sur un territoire agricole, alors que c'est absolument pas le cas. Ce que je comprends, là, c'est la statistique vraiment du 89,9% de développement de maisons unifamiliales sur notre territoire qui a fait ressortir Saint-Colomban de cette note de l'Observatoire du Grand Montréal. Bien sûr, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une très, très grande méconnaissance de la géographie, une très grande méconnaissance de la qualité, de la quantité d'eau disponible sur le territoire. Pour entendre le directeur de la communauté métropolitaine de Montréal suggérer qu'il est maintenant temps de densifier notre territoire. Donc, ça, c'est vraiment faire abstraction du coût très important des infrastructures. Là, on parle de dynamitage. Quand on parle de densité, finalement, c'est d'intégrer des réseaux d'égouts, des réseaux d'aqueducs. Donc, c'est faire abstraction qu'il faut dynamiser le bouclier canadien. Mais ce n'est pas du tout la même réalité que passer des conduites dans de l'argile. On appelle ça du beurre là, sur le terrain, c'est vraiment creusé dans du beurre, et ici, c'est dynamiter la roche-mère. Donc, en termes de réalité, penser densifier le territoire de Saint-Colomban, c'est absolument pas réaliste. Un autre point, c'est de dire que Saint-Colomban, nous, on a choisi d'habiter dans la nature et non pas à côté de la nature. Donc, au cours des dernières années, on a fait des choix, on a pris des décisions. De ces décisions-là, on a décidé plutôt d'appliquer une bande riveraine sur les milieux humides. Je pense pas que la communauté métropolitaine de Montréal a fait ça. On a aussi décidé, là, on travaille présentement dans la révision du schéma d'aménagement. On travaille à augmenter, la superficie des terres agricoles sur notre territoire. Je pense pas non plus que la communauté métropolitaine de Montréal va en ce sens-là. Ils sont plutôt en action pour préserver ce qu'ils ont. Donc, moi, d'entendre des sorties actuellement de la part des acteurs de la communauté métropolitaine de Montréal, blâmer finalement les villes périmétropolitaines autour de la communauté métropolitaine de Montréal, ça m'a dérangé. Et c'est surtout qu'à travers les différentes sorties médiatiques, il n'y avait qu'un seul côté de la médaille qui est valorisé depuis quelques jours.
Précisons-le également, là, ce rapport de la CMM, c'est entre autres ce blâme qui est adressé là, aux municipalités en périphérie. C'est la question du transport collectif, là.
Mais ce qu'il faut comprendre, le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal inclut Mirabel. Donc, nous, dans la dernière enquête d'origine-destination, là, les travailleurs, là, la population active de Saint-Colomban, une proportion de 70% travaillait finalement sur le territoire de Mirabel et de Saint-Jérôme. Donc, c'est un raccourci très facile de dire que des gens de Saint-Colomban travaillent sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, alors qu'en réalité, le site aéroportuaire, donc l'aéroport de Mirabel, contient ou génère finalement 6 000 emplois. Donc, il y a 6 000 emplois qui ont une chance d'être occupés par des gens qui habitent à 10 minutes de l'aéroport de Mirabel, par des gens qui habitent à Saint-Colomban. Donc, on ne voit pas ces nuances-là dans l'étude, puis on préfère finalement dresser un scénario catastrophe pour finalement annoncer que ce qui semble être annoncé, là, c'est que la communauté métropolitaine de Montréal, dans ses frontières actuelles, ne suffit plus et qu'il se cherche finalement des nouveaux joueurs pour contribuer financièrement, notamment au coût du transport collectif. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que la ville de Saint-Colomban, comme les 4 autres villes de la MRC du Grand-Nord, contribue déjà au transport collectif par le paiement d'une facture du train de banlieue. Donc, en l'espace de quelques années, la facture qui est envoyée à la MRC du Grand-Nord est passée de 300 000 à 1,7 million, si je me rappelle bien. Puis là, quand je dis quelques années, là, c'est maximum 5 ans. Je n'ai pas les chiffres en avant de moi, là, mais c'est facile à valider. Donc là, on a une explosion des coûts liés au transport collectif, puis ce que j'entends, moi, ce que je lis à travers la note, puis à travers les différentes sorties médiatiques, c'est le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal qui fait face à une explosion des coûts du transport collectif et qui cherche de nouveaux joueurs pour payer.
Monsieur le maire, dans la réflexion que vous avez adressée sur les réseaux sociaux sur la question dans les dernières heures, vous invitez d'ailleurs les dirigeants de la CMM à peut-être revoir le mode de financement du transport collectif.
Absolument. Il y a deux choses intéressantes, dans le fond, dans les sorties de la communauté métropolitaine de Montréal qu'il faut relever. D'abord, les grands projets de transport collectif actuellement vont se réaliser à des endroits où il y a déjà du transport collectif. Le projet de la ligne rouge, bien qu'il est toujours en projet actuellement, là, c'est pour offrir finalement une offre supplémentaire de transport collectif. Ça ne tient pas du tout en compte les pronostics de croissance démographique qui sont prévus depuis 10 ans dans la région des Laurentides, notamment dans la MRC Rivière-du-Nord. Donc, on sait depuis 10 ans qu'il va y avoir un taux de croissance de 30% de la population dans les Laurentides, mais il n'y a absolument aucun projet actuellement qui vient répondre finalement à cette croissance prévue. Ça, quoi qu'on fasse, là, les gens ils viennent quand même s'installer ici. Ça, c'est important de le comprendre. On n'est pas en Chine ici. Là. Il n'y a pas une émission finalement de carte de travail qui nous oblige à travailler dans une région précise. Là. On n'est pas. Des fois, j'ai l'impression de lire des volontés qui peut rejoindre ce principe-là. Donc, l'autre grand projet, bien sûr, c'est le REM. Est-ce que vous avez entendu la volonté du REM d'installer une station, par exemple, à l'aéroport de Mirabel, où il y a déjà immensément d'espace pour stationner les gens, qui nous donnerait accès, finalement, au réseau du REM qui va rejoindre un autre réseau? On n'est pas là, on n'est pas dans ces projets-là. Puis l'autre troisième projet majeur, celui-ci provincial, qui va coûter des milliards de dollars pour très peu de gens, c'est le troisième lien à Québec. Donc là, on est en train de proposer d'autres offres de transport collectif sur des territoires qui sont déjà desservis. Le troisième lien, ce n'est pas un projet de transport collectif, mais c'est quand même plus d'un milliard de dollars, je vais être conservateur, là, pour donner une alternative pour 15 000 personnes là, dans les dernières analyses. Donc, je comprends la communauté métropolitaine de Montréal de faire des efforts pour sensibiliser le gouvernement et les acteurs à la réalité de la croissance périmétropolitaine des villes en région périmétropolitaine. Mais en même temps, le nerf de la guerre, à mon avis, il est davantage dans une planification. On se rejoint, là. Mais il faut une offre de service qui correspond finalement à la volonté de la CMM d'inclure des nouveaux joueurs. Ça, on n'entend pas ça. Présentement, si je regarde, si je me fie à leurs notes, là, puis je regarde, par exemple, dans le 70% qui peuvent se diriger à Saint-Jérôme ou au Mirabel pour travailler. Si on prend l'exemple de la zone aéroportuaire de Mirabel, c'est un site, comme j'ai dit tout à l'heure, qui avait 6 000 emplois. Au lieu de toujours regarder le système public, les villes, comme étant les responsables d'organisation du transport collectif, je pense que ce serait le temps de commencer à réfléchir à des moyens pour responsabiliser les grandes entreprises, donc les grands fournisseurs d'emplois sur le territoire, pour qu'ils prennent part finalement à l'élaboration d'une offre de transport collectif. Là, on pourrait penser, c'est des quarts de travail qui sont réguliers. Là. Nous, le matin ou le soir, vers 15h, 15h30, pour tous ceux qui peuvent passer sur l'autoroute 50, il y a une sortie massive de gens, là, des usines Bombardier, L3 et toutes autres usines qui sont installées sur le site. C'est quoi de faire participer les grandes entreprises afin de voyager finalement ces travailleurs-là qui deviennent des citoyens sur nos territoires? La portion de travail des villes pourrait être d'aménager des stationnements. Là, on commencerait à penser autrement au lieu de toujours nourrir un système qui, on le voit, à cause du dépassement des coûts puis de l'augmentation de la facture par générale, que ça, c'est un puits sans fond.
Donc, M. le maire, en conclusion, là, vous souhaitez ardemment, j'imagine, que le gouvernement Legault soit prudent, soit réservé dans l'écoute qu'il aura des requêtes là, de la CMM. Là.
S'il y a quelque chose qui est clair, c'est que cette semaine, la CNM a fait état de sa volonté, de ce qu'elle vise comme ambition territoriale et financière. Ceci dit, je pense qu'il faut nuancer aussi ce qui se passe dans le pourtour, parce que nous, ici, développer des maisons unifamiliales, comme je l'ai dit plus tôt, on décide d'habiter dans la forêt, c'est pas la même réalité que de dézoner 300 hectares de terres agricoles. Sur le fond, je suis entièrement d'accord avec la communauté métropolitaine de Montréal. Le développement ne doit pas se faire au détriment de la souveraineté alimentaire du Québec et des régions à développer son industrie agricole. Ça, c'est important, mais il faut aussi peut-être changer le modèle. L'an passé, j'entendais François Reeves, le cardiologue, le fils de Gilbert Reeves, qui remettait en question cette espèce de haine envers l'étalement urbain. Parce que la densité a même un autre lot de problèmes. C'est des îlots de chaleur, c'est des problèmes cardiaques. Monsieur Reeves est cardiologue. Donc, il faisait des parallèles entre les problèmes de santé connus dans les milieux densément occupés et d'autres situations impliquant moins de problèmes de santé dans des villes qui avaient étendu, je dirais, leurs activités et qui avaient été en mesure de développer davantage des quartiers verts au lieu de concentrer finalement l'activité commerciale, industrielle sur une île, par exemple, comme Montréal.